2096 km de Paris après avoir voyagé sur Egan Airlines, mangé des crackers, du butter Epiros et bu du red wine Three Hills. C'était marqué sur l'étiquette. Nous voici à Athènes, enfin, pour ce congrès européen des profs de français. Chouette!
De vive voix.
Pascal Paradou.
Une salle de classe, ça me rappelle des souvenirs. À Athènes, ça me rappelle des vacances. Nous sommes en Grèce pour le 3e congrès européen des professeurs de français qui se déroule jusqu'à la fin de la semaine au lycée Léonin, un très grand établissement installé depuis une quinzaine d'années dans le quartier de Nea Smyrni, mais ses origines sont plus anciennes puisque l'école, il n'y avait que le primaire à l'époque, a été créée en 1838 avant même que les frères maristes prennent la direction de l'établissement au début du 20e siècle. Longue histoire, mais il faut dire que le mot même de lycée ne date pas d'aujourd'hui. Bonjour Constantin Voulgaridis.
Bonjour.
L'origine étymologique du mot lycée est bien grecque.
Oui. Les lycéion, on dit en grec ancien. Oui, c'était un établissement où je crois, où l'on allait faire du sport. Là, vous pouvez me poser une colle, je ne m'en souviens pas exactement d'où vient le mot, mais c'est en grec ancien, c'est lycéion. Ça devait être un endroit où l'on faisait du sport.
C'est aussi le gymnasium, non ?
Les gymnasiums, oui. Et on appelle gymnase en grec, justement, le collège. Le collège s'appelle gymnase.
Alors, vous êtes donc prof, non pas de grec, mais de français, à Saint-Paul-du-Pirée, et surtout
oui.
Président du comité d'organisation de ce 3e congrès européen des profs, qui se tient ici à Athènes. Le précédent avait eu lieu à Prague, donc c'est un événement assez rare. C'était en 2011,
oui,
il y a 8 ans. Est-ce que c'est comme pour les JO ? Est-ce qu'il faut se battre pour organiser un congrès comme celui-ci ?
Oui, c'est difficile. Ce n'est pas facile, surtout que l'organisation s'est faite par des volontaires, par des bénévoles. Il y a très peu de gens qui sont payés pour ça. Donc, pour trouver des bénévoles qui sont dévoués, qui vont travailler pour l'organisation et pour la réussite d'un congrès comme ça, il est difficile d'en recruter. Mais, heureusement, nous, on a la chance d'avoir des collègues qui font ça avec joie.
Alors, une cinquantaine de pays sont représentés, c'est beaucoup plus que les pays européens, car en fait, si le congrès a des problématiques européennes, il y a des représentants du monde entier, ça va du Burkina au Vietnam, mais on s'intéresse quand même à l'Europe pendant 4 jours.
Ouais, oui.
Alors, nous allons parler des thématiques de ce congrès qui s'ouvre ce mercredi avec un joli slogan quand même, le français passion pour demain. C'est à la fois optimiste et très volontariste.
Oui.
Un peu ça. Trop peut-être, non ?
Oui, on répond à la question que le professeur de français est en même temps le professeur d'espérance. Espérance de solidarité, d'amitié, de charité. C'est que le secrétaire général de l'OIF avait utilisé dans son discours à Québec quand il y a eu le congrès mondial. Il disait que le professeur de français était le professeur d'espérance. Donc nous devons espérer, nous devons être proches des élèves et les pousser à espérer aussi. Le français est une langue humaniste, et il faut leur enseigner cet humanisme. Nous sommes là, même si nous sommes fragiles du point de vue matière, mais nous existons et nous devons bien exister. Espérer.
Faut-il une passion particulière pour être prof de français, langue étrangère ? Alors, on va continuer les présentations, car vous êtes venu, Constantin, avec Jana Birova. Bonjour.
Bonjour.
Vous enseignez en Slovaquie, dans une petite ville à 40 km, je crois, de la capitale Bratislava. Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes prof de français ?
Oui, ça fait 15 ans que je suis professeur de français à l'université.
Et qu'est-ce qui vous a donné envie d'être prof de français et d'apprendre cette langue pour l'apprendre à d'autres ?
En fait, au lycée, on m'a obligée d'apprendre la langue française. Je voulais, et ma mère voulait, elle insistait à l'apprentissage de l'allemand. Mais en fait, finalement, après les études de la langue française, à l'université, j'ai apporté un bouquet de fleurs à notre directeur, parce que finalement, j'ai découvert quelle passion c'est et quelle vie culturelle c'est. Et voilà, j'aime beaucoup.
Donc, c'est un mariage un peu forcé qui s'est transformé en coup de foudre.
Voilà.
on peut dire ça comme
exact,
ça.
Exact.
Alors, même question à vous, Rolien Serrano. Vous êtes prof à Cuenca. Bonjour.
Bonjour.
Donc, Cuenca, c'est en Espagne. Vous êtes d'ailleurs président de la Fédération des profs de français d'Espagne. Elle regroupe combien de personnes?
Elle regroupe différentes associations de toutes les communautés autonomes et provinces de l'Espagne. C'est les associations qui gèrent directement les membres. Mais on est 9000 profs en Espagne, impliqués dans les associations beaucoup moins. Mais voilà, il y a un mouvement très intéressant et grâce à ce mouvement, comme le disait Constantin, le français continue d'être vivant.
Alors, pourquoi vous êtes devenu prof de français? Est-ce que, par exemple, la littérature a joué un rôle important dans cette vocation, si vocation il y a?
Mais je crois que être prof est une vocation profonde qu'on découvre petit à petit. Le contact avec les autres, le plaisir et la passion d'apprendre quelque chose. Et quand ça va lié à une culture, pour moi qui venait de l'Espagne profonde, où personne dans ma famille parlait une autre langue, l'ouverture vers le français qui m'a porté des professeurs français. J'ai eu la chance d'avoir des professeurs de français missionnaires en Espagne. Et voilà, j'ai découvert une passion, une culture extraordinaire. Et évidemment, la littérature, la musique, les chansons, la poésie et surtout la culture en général qui est ouverte.
Vous vous souvenez de votre premier roman en français ? Du début à la fin. Hein,
le premier non, mais celui qui m'a marqué profondément, c'est L'étranger.
De Camus,
qui a été pour moi une forte influence, oui.
Alors pourquoi apprendre le français aujourd'hui au 21e siècle dans un monde en mutation? Telle est la question de ce congrès d'Athènes. Mais nous sommes en Grèce, donc il faut d'abord écouter cette belle langue avec Lavrandis Makerichas. Ça va, Constantin, la
ça
prononciation
va bien.
Est bonne, qui chante en duo avec Christophe.
Κι αν για τους φίλους μου δεν ήσουν κάτι τρομερό, για μένα ήσουν μαγικοί με τον τρόπο σου αυτό. Λέγοντας δεν ξέρω σ' όλα τα αρσενικά που μυριζόντουσαν τι θες πραγματικά. Και παρόλο που ήσουν αγιαλό για έναν άλλον εραστή, για έναν άλλον σου κόπηκε η λαλιά. Και παρόλο που είχες κατά νου ένα θηρίο δαμαστή, όριμά μου έπεσες σαν μήλο απ' τη μηλιά.
Elle n'avait pas besoin que tout brille autour d'elle pour me rendre heureux, pour me rendre amoureux. Elle avait juste envie d'astiquer le réel pour satisfaire l'imparfait, une délice. Elle nageait sur la transe du miroir à deux faces et faisait semblant d'y voir clair dans la nuit. Elle défiait le mystère dans les couloirs du désir, affichait courant d'air, ça pour moi ça déchire. Tandis que pour tous tes copains jaloux, elle était juste à la hauteur. Il n'y avait qu'à frôler ce petit je ne sais quoi. Tandis que pour tous mes copains jaloux, c'était l'ami, c'est lui de mon cœur. Il n'y avait qu'à frôler ce petit je ne sais quoi.
Δεν χρειαζόταν να τα θες όλα μέχρι το πρωί,
για να σε κατευτώ, για να σε ερωτευτώ. Δεν χρειαζόντουσαν τόσα φώτα σβηστά. Αν είναι έρωτας, έχει μάτια κλειστά.
De vive voix en direct d'Athènes pour le 3e congrès européen des profs de français. Alors, qu'attendre d'une grande messe comme celle-ci, Constantin Voulgaridis, sachant qu'il y a à peu près 700 profs, donc de toute l'Europe et un peu plus, qui sont attendus pendant 4 jours?
On attend que ces profs soient contents, d'abord. C'est l'objectif principal.
Donc c'est pour motiver une équipe.
Une équipe, voilà. Il faut qu'ils soient contents d'abord. Pourquoi ils seront contents? S'ils ont rencontré des gens, s'ils ont été contents des interventions qui ont été prévues par le comité et par le comité scientifique.
Oui, parce qu'il y a de nombreuses conférences,
il y a des conférences.
Toutes les classes du lycée ateliers. Ici sont oui, occupées.
Il y a des soirées culturelles. Il y a au programme tout ce qu'il faut et même... les pauses café, le petit goûter, des petits repas le soir pour ceux qui veulent participer. Donc il faut qu'ils partent contents. Il faut donc en plus qu'ils aient quelques données pour pouvoir travailler dans ce monde nouveau qui est en mutation. Il ne faut pas qu'ils aient l'ensemble de ces... mais quelques données, parce qu'il suffit d'avoir des points de repère qui nous feront réfléchir et imaginer d'autres manières pour affronter chacun dans sa classe le problème du monde en mutation, si on peut dire problème, ça pourrait être de la question.
Le monde en mutation, c'est quoi pour vous?
C'est le monde en mutation, pour moi personnellement, c'est que dans une salle de classe, d'abord, il peut y avoir des élèves de différentes nationalités, donc des différentes mœurs et coutumes, comment on va faire, et de différentes langues. On ne peut pas traduire un mot en grec si on a des élèves qui sont albanais. Donc, il faut expliquer en français. Chose qui est facile pour nous, nous l'avons appris à le faire, mais l'important, c'est comment faire une approche pédagogique un peu différente quand on a de multiples élèves. Et deuxièmement, le monde en mutation, c'est que même les élèves de nationalité grecque, ils ont changé. Les élèves ne sont plus les mêmes qu'autrefois. Quand on dit donc monde en mutation, quand on dit crise, quand on dit ah, il y a crise au lycée, il y a une crise. Que veut dire crise? Crise, c'est le changement. Et nous devons suivre ce changement. Nous devons devenir meilleurs. Autrefois, le professeur, c'était le bon Dieu qui avait toutes les connaissances. Maintenant, il y a Internet à la place.
Donc le prof doit être un prof 2.0, en fait.
Voilà. Il doit être un prof de tout. Le prof de français, le prof de langue, il doit être au courant de tout.
Alors, est-ce que des projets de coopération naissent aussi dans un congrès comme celui-ci? Je vais me tourner vers Jana Birova. Vous êtes arrivée donc depuis Bratislava avec un projet d'Olympiade dans votre cartable. Racontez-moi.
Oui, donc nous faisons cette année, ça sera la 30e année qu'on organise avec le ministère de l'Éducation. Les Olympiades en langue française, il s'agit en fait d'un concours pour les meilleurs élèves, pour l'élite. Ce concours consiste en plusieurs sections, parmi lesquelles je peux citer par exemple compréhension orale, compréhension écrite, production orale, un test de grammaire. Et donc on évalue, on fait un rangement des meilleurs élèves. Et donc l'idée avec laquelle je suis venue ici, l'une des idées, parce que c'est pas la seule, c'est en fait de commencer à organiser un tour international, parce que les autres associations ou pas mal d'associations organisent aussi également les Olympiades en langue française, mais le tour international, ça n'existe pas encore.
Donc vous voulez, en Grèce, pays des Jeux Olympiques, créer les Olympiades du français. C'est une bonne idée.
Bah, ça serait une super idée si ça commençait en Grèce, en plus, oui.
Et vous annoncez tout ça sur RFI. C'est encore une meilleure idée. Rolien Serrano, est-ce que vous arrivez aussi avec des projets? Est-ce que c'est un lieu comme ça d'échange, d'innovation, de partage d'expérience?
Exactement. Ces congrès ont la particularité de réunir des gens qui habituellement travaillent seuls. Le professeur travaille seul dans sa classe.
Oui, d'où l'importance d'être ensemble, en
voilà,
fait.
Voilà. Alors, se rassembler, rencontrer d'autres professeurs qui partager les préoccupations, les idées, les solutions. Il y a énormément de communication des profs, des experts, de grands experts, hein, qui gèrent, qui dirigent, qui donnent des grandes idées. Mais il y a aussi la communication des petites activités, des choses, des petites recettes de classe d'un professeur isolé dans un milieu rural. Et tout ça, le partager, le découvrir, ça fait la richesse des congrès comme celui-là.
Alors la problématique de l'enseignement du français en Europe peut se poser aussi en fonction des régions de l'Europe. Est-ce qu'on apprend le français de la même manière à l'Ouest qu'à l'Est ? Réponse avec Guido Guster, président de la Commission de l'Europe de l'Ouest, et Jacqueline Ovens de la SECO, qui est donc la Commission de l'Europe centrale et orientale.
La problématique, c'est le fait que les professeurs de français n'ont pas une tâche facile, en fait, à motiver les apprenants à choisir le français. C'est ça, parce que le français est quand même en déclin par rapport à d'autres langues étrangères, et donc le professeur de français doit être un passionné pour essayer de convaincre les apprenants à choisir le français plutôt qu'une autre langue étrangère.
Guido Quester, est-ce que c'est la même problématique à l'Ouest ?
Oui et non. Un des problèmes les plus importants que nous avons pour le moment, c'est le recrutement de professeurs, parce qu'il y a pénurie de profs de français actuellement. Après ça, il y a la motivation des élèves, une motivation qui n'est pas trop stimulée par ce qu'on trouve dans la presse de beaucoup de pays de chez nous, c'est-à-dire le niveau de français qui baisse. Et donc là, c'est une langue qu'il faut étudier, les règles de grammaire, etc., ou c'est une langue utile. Et donc l'anglais a ce grand atout que c'est une langue qui est très utile, entre guillemets, tandis que pour le français, c'est plutôt considéré comme une matière scolaire qu'il faut étudier. Et donc, motiver les élèves, leur prouver que le français sert à quelque chose, ben, c'est un des défis de nos professeurs de français actuellement.
À quoi sert le français ? On va en parler, mais sur le constat fait par Guido Quester de la pénurie de profs, est-ce que c'est quelque chose que vous rencontrez aussi dans vos différents pays, Julian Serrano ? Est-ce qu'en Espagne, il y a une pénurie de profs de français ?
Oui, parce que pendant longtemps déjà, les autorités sont un peu obsédées par l'apprentissage de l'anglais, qui est dur, hein, qui est long et qui se réussit mal en Espagne. Cette obsession a fait centrer sur un monolinguisme le système scolaire espagnol, et les universités ont arrêté la formation des professeurs de français, ce qui pose maintenant un grand problème de relais des profs qui partent à la retraite ou qui vont partir à la retraite et qui ne retrouveront pas ou difficilement les relais des jeunes professeurs.
Jeanne Abirova, c'est la même chose en Slovaquie ?
Oui, je dois confirmer qu'il y a une baisse de la langue française en ce qui concerne les effectifs. Par exemple, depuis 2013, on a perdu 6000 élèves. Jusqu'à 2018, on a fait des recherches. Il y a plusieurs en fait, raisons pour expliquer. D'abord, par exemple, il y a 25 ans, on était forcés à apprendre les langues. Maintenant, on doit motiver les parents et les élèves. Donc, un changement de style dans la communication et dans la vie aussi. Mais aussi, c'est l'anglais qui est préféré et qui dévance les autres langues.
Alors, je me moquais un petit peu de mon arrivée et du fait qu'on mangeait du butter dans les lignes aériennes grecques et qu'on buvait du red wine. L'anglais est omniprésent aussi ici en Grèce. Est-ce qu'il y a une problématique prof de français dans l'enseignement grec, Constantin Voulgaridis ?
Donc, je dirais ça rapidement parce que c'est une longue histoire. Du temps où j'étais étudiant en France, quand je prenais de temps à autre l'avion pour venir voir ici mes parents, et que je prenais la même compagnie qui a un autre nom maintenant, tout était en français, il faut que je vous dise. Et même les badges des stewards, des hôtesses, etc., c'était en français. C'est là que j'ai appris un mot que je ne savais pas, chef d'équipage. C'était une femme qui avait ici chef d'équipage. Alors moi, toutes les annonces, c'était en français. Quand je suis revenu après mes études, 5-6 ans après, les annonces étaient en anglais. Bon, L'anglais, vous dites, on vient d'entendre que c'est une langue qui concurrence le français. L'anglais, c'est pas une langue maintenant qui concurrence. L'anglais est une langue qui s'est imposée. Alors qu'on ne peut pas éliminer, elle existe de toute façon. La plupart des films sont en anglais, la plupart de ceux-ci sont en anglais, ce n'est pas en France. Et dans les autres pays, nous avons des films doublés. Ici, il n'y a pas de films doublés, c'est dans leur propre langue. Alors si les élèves, et même Internet en français, si les élèves, les enfants, les jeunes, toute la journée, ils sont frôlés à l'anglais, ils vont l'apprendre chez nous, ils l'apprennent beaucoup plus facilement. Et je vous donne un exemple. Ma fille cadette qui parle très bien français, quand on est allé en Belgique, quand elle avait l'occasion, elle parlait anglais. Pourquoi je lui fais, moi ça m'est tue ça. Pourquoi elle parlait anglais? Parce que ça lui, bon, c'était plus à la mode, etc. L'anglais, il existe. Nous, qu'est-ce que nous faisons comme professeurs de français pour que les élèves, outre l'anglais, qui existe, qui s'est imposé, qu'ils apprennent une autre langue? Et que ça soit le français, l'espagnol ou l'allemand. Qu'ils choisissent aussi une autre langue. Et qu'est-ce que nous ferons comme professeurs de français? Nous devrons les motiver, comme on a dit ici.
Oui, c'est vraiment le mot-clé. Hein. Le motiver mot-clé. Les élèves et ça, les ouvrir sur ça. D'autres cultures et pas simplement voilà. Sur une monoculture, un monolinguisme. Voilà. Alors, avant d'ouvrir les micros, comme l'ont dit Julien Serrano, on parlait de la religion. Et alors là, j'ai appris quelque chose. En Espagne, la religion fait concurrence à la langue française. Pourquoi?
Oui, malheureusement... comme disait Constantin, le français fait partie des matières à option. Et donc, elle concurrence avec contre d'autres matières qui sont plus faciles, qui sont vendues d'une autre façon. Et dans le cas de la religion, on parlait parce que récemment, il y a un intellectuel espagnol, David Trueba, qui a écrit un très beau bel article qui raconter un problème concret de classe de bachillerato, c'est-à-dire les deux dernières années d'accès à l'université, où le concurrent de la deuxième langue étrangère français est la religion. Et donc, la religion est choisie majoritairement parce que elle est mieux notée, elle est plus facile à suivre et elle est moins exigeante. Et la note compte pour l'entrée à l'université, oui. Ce qui est un paradoxe assez important.
Ça s'appelle de la concurrence déloyale. C'est la même chose en Grèce, parce que la place du privé et des écoles confessionnelles, des lycées confessionnels comme celui dans lequel nous sommes, est très très importante en Grèce.
Ouais. Dans les lycées confessionnels, dans les lycées qu'on appelle lycées libres en France, oui. Et le français a une place très importante parce que la plupart de ces lycées ont été donc fondés par des frères français quand ils ont été renvoyés de France, où ils avaient des écoles par le gouvernement vers la fin du 19e siècle, ils sont venus en Grèce pour construire des écoles. Donc ce sont des écoles où le français est enseigné comme première langue et où il est enseigné de manière renforcée. Donc il faut à peu près 7 heures par semaine de français, 6 heures par semaine de français, ils en ont un peu marre. Et s'ils ont un professeur qui est un peu ennuyeux. Donc il faut justement les motiver, même dans les écoles confessionnelles, pour qu'ils ne chahutent pas et pour qu'ils suivent bien l'enseignement et qu'ils soient contents à la fin du cours.
Et puis de toute façon, la religion est une option, n'est pas une option plutôt, c'est une discipline obligatoire,
une matière obligatoire, la religion, c'est ça. Mais nous sommes aussi, même dans les écoles, je vois en terminale, nous sommes concurrencés par d'autres matières, nous sommes concurrencés par l'informatique, nous sommes concurrencés par des trucs comme ça. En terminale, parce que en terminale, il y a l'option, mais dans les autres classes, nous, dans les écoles libres, il y a le français qui est obligatoire.
Jeanne Birova.
Je voulais faire un ajout par rapport à la linguistique, politique linguistique. La Slovaquie se réjouit d'un changement dans la politique linguistique. C'est en fait qu'on a tous poussé avec l'Institut français, l'ambassade de France et l'association que je préside. On a tous poussé Madame la ministre de l'Éducation qu'elle change la politique linguistique. Et donc, il y aura à partir du mois de septembre 2019 il y a ce changement que les élèves peuvent décider quelle langue ils vont choisir comme la première langue étrangère. Donc, ça sera plus l'anglais, mais ils ont un choix.
Donc, c'est en effet assez important.
Permettez-moi de rajouter quelque chose.
Juste un mot.
Le français, la deuxième langue ou la troisième, sont tributaires de la crise économique en ce moment en Europe. Il n'y a plus d'argent, on ne veut pas payer les profs, il y a un petit problème là. Et si on veut avoir plus de profs, il nous sera difficile de les avoir parce qu'on n'a pas suffisamment d'argent pour les payer.
Remarque assez importante. Alors à ce congrès, 700 profs de français et bien sûr l'équipe de RFI Savoir, puisque RFI, c'est la classe. Kalispera, Déborah.
Kalimera, Pascal.
Vous retrouvez ici est assez normal.
Et oui, on fait partie de cette grande programmation d'ateliers, de conférences pour présenter les ressources qui sont présentes sur le site de RFI Savoir aux profs et leur montrer comment utiliser la radio dans leur classe.
Profs qui ne connaissent pas tous RFI Savoir, du moins pas encore, mais quand même.
J'utilise bien sûr les ressources du RFI parce que je les trouve très importants pour l'enrichissement de notre cours. Pour moi, un cours devrait être toujours une fenêtre ouverte au monde francophone, puisqu'on parle du FLE. Et tout contact avec toute source authentique francophone est pour nous un vrai cadeau en classe.
Moi, je travaille avec l'enseignement de la langue française au Brésil, mais on se demande quel français enseigner. Hein, parce que justement... C'est quoi le public cible?
C'est une référence, tu sais, la Radio France, RFI, comme on dit toujours. C'est une référence pour le renouveau, pour l'actualisation, pour la mise à jour toujours des informations pertinentes du rapport langue et société.
Donc les profs ont bien conscience, Déborah Gros, du plus de RFI Savoir en fait. C'est le lien entre l'actualité et l'apprentissage de la langue.
Exactement. En fait, on est là en complément des manuels scolaires qui sont utilisés pour donner des ressources avec des gens qui parlent le français, voilà, tel qu'on peut l'entendre dans différents pays francophones. Notamment, le rendez-vous hebdomadaire, c'est le fait du jour. Donc, deux exercices en ligne qui sont publiés à partir du journal En Français Facile. Donc on sélectionne un extrait et on propose des questions, des réponses à faire en ligne pour que les apprenants, les élèves s'entraînent à écouter le français et puis que les professeurs puissent amener ces extraits dans la classe. Et puis on trouve aussi des dossiers thématiques, justement toujours en lien avec le programme de cours, comme par exemple un dossier qui s'appelle « Agir pour l'environnement ». Et l'idée, c'est d'amener des projets de classe, comme créer des slogans pour l'environnement, prendre des photos de plantes sauvages en ville, tout ça à partir d'extraits d'émissions radiophoniques.
Donc vous présentez tout cela ici à ce congrès d'Athènes, mais vous présentez aussi les nouveautés de la rentrée pour le site RFI Savoir.
Voilà, et par exemple la newsletter qui vient d'être lancée pour cette rentrée, et il suffit de s'abonner justement pour recevoir toutes les semaines les nouvelles publications, les nouveautés du site. Et puis surtout la grande nouveauté aussi, c'est une nouvelle fiction bilingue pour la classe qui va être lancée à la fin de cet automne.
C'est l'histoire de migrants et de personnes qui vivent dans un immeuble et qui vont se rencontrer comme ça tout au long de ce feuilleton. C'est bien
voilà.
Ça
c'est une fiction, bien informé. Exactement. Une fiction pour les primo-arrivants, les personnes qui viennent de s'installer en France. Et l'idée, c'est de leur donner à entendre des situations de la vie quotidienne, mais à travers la vie de différents personnages qui vivent dans le même immeuble.
Merci Déborah Gros. Bien sûr, vous connaissez tous autour de cette table les ressources du site RFI Savoir. Est-ce que vous les utilisez en classe?
Bien sûr, moi je les utilise de temps à autre, bien que parfois, étant donné que je suis professeur de lycée et que mes élèves ont déjà un niveau assez élevé de français, je suis obligé par le programme d'enseigner la littérature parce qu'ils ont un examen de littérature à la fin de l'année. Donc pour les petites classes, bien sûr, au collège j'ai une classe, j'utilise le RFI, presque une fois par semaine, les ressources supplémentaires.
Je tape sur les doigts de quelqu'un, Rouliane, vous connaissiez?
Oui, absolument.
Bon, donc je tape pas sur vos doigts.
Et je tiens à remercier justement RFI qui de nous offrir des ressources privilégiées, des ressources précieuses.
Avec des fiches pédagogiques toutes prêtes, ce qui nous facilite le boulot.
Jeanna, vous connaissiez RFI Savoir?
Bien sûr, on utilise comme le document authentique.
C'est une classe de c'est des premiers de la classe qui étaient aujourd'hui dans De Vive Voix. Merci beaucoup, Pascal Paradou à la présentation, programmation Véronique Durand, Guillaume Ploquin à la réalisation, et on se retrouve toujours à Athènes demain.